Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Affaire Stanny Boujakera, le président de la République promet de s'impliquer personnellement concernant la détention du correspondant de Jeune Afrique. Ce dernier est emprisonné depuis quelques mois à Kinshasa, accusé notamment de propagation des faux bruits dans le dossier assassinat de Chérubin Okende. Une délégation de la CENI en séjour à Massimanimba dans le Kwilu depuis lundi. Sa mission, sensibiliser la population au civisme électoral et à recueillir des informations utiles sur les élections de décembre dernier. C'est pour réorganiser des bonnes élections législatives incessamment, explique le deuxième vice-président de la CENI. Et puis, l'épidémie de choléra est enfin en régression dans certaines zones de santé du Haut-Katanga. La lutte contre cette épidémie est multisectorielle, assure le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambibulanda, et l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Notre justice est malade, même dans le traitement des dossiers. Je crois que le journaliste Stanny Boujakera est un peu victime de ça et j'ai décidé d'y mettre mon nez. Ce sont les propos du président Félix-Antoine Tshisekedi, tenu hier jeudi sur l'emprisonnement depuis quelques mois du journaliste d'actualité.cd et correspondant des Jeunes Afriques, Stanny Boujakera. C'était lors d'un briefing de presse spécial à Kinshasa avec le ministre de la Communication. Je vous propose d'écouter le président Félix-Antoine Tshisekedi dans cet extrait que nous propose Cynthia Bachizi.
J'ai vraiment décidé d'y mettre mon nez. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas le faire, croyez-moi. Je le jure, vous êtes des journalistes, allez demander. Je n'ai jamais appelé un juge. Je leur fais confiance. J'insiste simplement pour qu'ils disent le droit comme il se doit. Pour que nos compatriotes, enfin les citoyens, parce qu'il n'y a pas que nos compatriotes qui sont justiciables dans ce pays, en profite. Et j'ai besoin d'une justice qui est correcte, qui est efficace. Parce que c'est comme ça, c'est sur cette justice que nous bâtirons l'état de droit que nous voulons. Cet état qui va transformer le Congo. Donc je veux cette justice. Et à cause de leur tergiversation, peut-être que ce jeune homme est en train de moisir dans ce... Alors aujourd'hui j'ai posé cette question. Je soupçonnais qu'elle viendrait de la part des journalistes. Donc je vous le dis solennellement, j'ai décidé de fourrer mon nez au moins pour une fois dans cette justice, en savoir plus dès demain, parce que j'aurai les retours dès demain. Et je vais prendre la décision qu'il faudra prendre.
Direction le Nord Kivu. 3 morts dont 2 enfants et 4 blessés graves. C'est le bilan encore provisoire établi par la société civile à la suite des projectiles largués par les rebelles du M23 dans la cité de Sake. Ce, dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Ceci intervient après la tentative d'une nouvelle incursion dans la cité. La riposte musclée de l'armée et ses partenaires à ces énièmes assauts ne s'est pas fait attendre. Gabriel Ouamenia nous en dit plus.
Les violents combats survenus depuis la nuit d'hier jeudi se sont poursuivis jusqu'en fin de la matinée de ce vendredi tout autour de la cité de Sake. Les acteurs de la société civile du territoire de Masisi affirment que ce énième assaut des rebelles sur la cité a été vigoureusement repoussé par l'armée et ses partenaires dont la MONUSCO, la force de la SADC qui contrôle toujours la cité et ses environs. Les mêmes sources corroborées par plusieurs autres témoignages concordants dans la zone précisent que les rebelles ont tenté encore une fois de contourner la colline de Macha pour atterrir dans la cité. C'est après avoir largué 3 bombes dans la cité. La société civile avance un bilan encore provisoire de 3 personnes tuées, dont une mère et ses 2 enfants dans le quartier Mayusa 2, ainsi que 4 autres grièvement blessés. Rappelons que la cité de Sake est toujours visée par les attaques répétées des rebelles qui tiennent à occuper cette cité considérée comme plaque tournante qui ouvre la voie à d'autres provinces. Dans les territoires de Nyiragongo, au nord de Goma, la situation reste toujours imprévisible. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, le gouverneur intérimaire appelle les populations déplacées à la patience. Devant la presse hier, l'autorité provinciale a rassuré ces populations qu'un retour dans leur village dans un futur proche reste une priorité pour le gouvernement. Ce, après sa visite effectuée mercredi dans le site des déplacés de Lushagala, dans le quartier Mugunga, commune de Karisimbi. Gabriel Ouamenia.
répondant à une question de la presse au sujet de l'épineuse question sur la sécurité en général et particulièrement au sujet du vœu exprimé par des milliers de déplacés qui désirent déjà rentrer chez eux, le gouverneur intérimaire des provinces les a appelés à la patience. Dans son message d'espoir, le gouverneur a dit que tout est mis en œuvre par le gouvernement pour libérer les espaces sous contrôle des rebelles. Le général-major Peter Chirimwami.
Le message d'assurance à la population, c'est que le président de la République nous demande d'assurer la population qu'elle soit un peu patiente parce que avec les FRDC, nos partenaires, la MONUSCO et les autres partenaires avec lesquels nous sommes dans les théâtres des opérations sont en train de tout faire pour que la paix revienne le plus rapidement possible et que la population puisse regagner leurs milliers d'origine.
Le gouverneur des provinces intérimaires a fait savoir par la même occasion que le gouvernement provincial vient d'assister les déplacés du site de Lushagala avec une enveloppe de 25 millions de francs congolais. Ce fonds est destiné à l'achat des bâches. Rappelons que la situation humanitaire dans plusieurs sites de déplacés tout autour de la ville de Goma reste précaire. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, plusieurs ménages passent la nuit dans la brousse, dans le centre commercial de Mbijo. Nous sommes à une centaine de kilomètres de Bunia, territoire de Djougou. Cela fait suite aux menaces d'attaque de cette cité par des miliciens Codeco qui se sont affrontés la semaine dernière aux éléments dits d'autodéfense. Une psychose gagne la population de cette entité et certains habitants ont quitté la zone. Des membres de la société civile et des activistes des droits humains demandent à l'armée d'intervenir pour assurer la protection des populations. Ezekiel Mouzalia.
Depuis dimanche dernier, des affrontements sont signalés entre miliciens de la Codeco et groupes d'autodéfense dans les villages Maïmoussi, à 2 km du centre commercial de Mbijo. Des sources locales dans la zone avancent un bilan de 15 miliciens Codeco et deux éléments d'autodéfense tués. D'autres sources locales ajoutent que ces deux groupes armés se regardent mutuellement de façon méfiante et sont prêts à s'affronter à nouveau à tout moment. Un activiste des droits de l'homme que nous avons contacté et qui dit se cacher dans la brousse rapporte que plus de 5000 ménages passent nuit dans la forêt à cause des menaces d'attaque des deux camps armés. D'autres habitants fuient et se dirigent vers des localités voisines. Entre-temps, la quasi-totalité des activités sont paralysées. Boutiques, marchés, écoles et églises sont fermées, indique cet activiste des droits de l'homme. Contacté, l'administrateur du territoire condamne la reprise des violences par ces deux groupes armés signataires d'accords de paix d'Arou. Pour rappel, des affrontements signalés la semaine dernière entre les deux camps avaient entraîné la mort de 17 personnes. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis, la journée de ce vendredi 23 février est dédiée à la RDC et à la commémoration de ses martyrs à l'école Jewels, ici à Kinshasa. Une journée pour faire comprendre aux enfants les causes de la guerre qui perdure dans la partie est du pays. Une guerre qui continue à décimer et à mettre sur les routes des milliers d'enfants et des familles. Journée également pour demander que cela cesse. Les élèves et les enseignants étaient vêtus aux couleurs du drapeau de la RDC. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Rendons-nous dans la province du Bazouélé. L'administrateur du territoire d'Ango plaide pour une assistance humanitaire en faveur des réfugiés centrafricains installés dans la chefferie Sassa, située à plus ou moins 150 km de la frontière centrafricaine. Ces citoyens ont traversé la rivière Mbomou, certains depuis 2017 et d'autres en 2023, fuyant la guerre dans leur pays. Leur nombre est estimé actuellement à plus de 67 000 personnes. Dans cette partie du territoire d'Ango, ils vivent difficilement de leur petite production champêtre. L'administrateur d'Ango, qui revient d'une mission d'itinérance sur place, déclare qu'il mène une vie misérable. Marcelin Lekaboussia, joint par Jacques Moukonkolé.
Ils ont d'abord des problèmes de l'eau, il n'y a pas vraiment de l'eau potable, et aussi leur survie, ils mangent difficilement. Heureusement pour eux, ils ont trouvé une terre fertile, ils se donnent aux travaux champêtres pour vivre et aussi ils ont les problèmes d'éducation de leurs enfants. Les enfants sont nombreux dans une salle, vous allez trouver au moins 150 à 200 élèves.
Sur le plan sécuritaire, est-ce que leur présence ne pose pas de problème?
Sur le plan sécuritaire, nous savons que ça ne pose pas vraiment de problème, mais malheureusement, à la frontière là, j'ai trouvé une chose qui ne m'a pas vraiment plu, il n'y a pas une forte présence de l'armée et tout ce sécuriser la frontière. Il y a des fêlés qui sont de l'autre côté, ils traversent sans problème par des routes là, des voies illégales. Voilà ce qui fait toujours des ordres sur le terrain. Aussi, les éleveurs Mbororo, quelques-uns sont habitués à se promener avec des armes dans la pousse. Ils sèment des terrains chez la population. Voilà la situation sécuritaire qui n'est pas bonne sur l'ensemble de ce territoire.
L'administrateur du territoire d'Ango demande également aux autorités congolaises de renforcer les effectifs des militaires FARDC et de les équiper afin de mieux sécuriser la frontière avec la République centrafricaine. Je vous le disais en titre, une délégation de la CENI conduite par son deuxième vice-président Didi Banara séjourne depuis lundi dernier à Massimanimba dans la province du Kwilu. C'est pour une mission exploratoire de 10 jours, dit-il. Objectif, sensibiliser la population au civisme électoral, échanger avec toutes les couches de la population et recueillir des informations utiles sur le déroulement des élections du 20 décembre dernier en vue de la réorganisation des bonnes élections législatives nationales et provinciales dans les tout prochains jours. Cela à la suite de l'annulation par la CENI des suffrages dans ce territoire à cause notamment de la fraude électorale et incendie des matériels de la CENI. Irène Boma pour les détails.
Cette délégation dépêchée par la CENI au territoire de Massimanimba pour une mission a été mercredi face à la population de la commune rurale de Massamouna où plusieurs dispositifs électroniques de vote ont été brûlés. Ici, elle a sensibilisé les habitants sur le respect des matériels de la CENI et leur a demandé d'éviter les actes de vandalisme pendant l'opération de vote qui sera réorganisée prochainement dans cette partie de la province du Kwilu. Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI qui conduit cette délégation, explique la raison de la dite mission.
Partout au pays, il n'y a que ici, à Massamouna, où on a brûlé le plus grand nombre de machines. Ce sont les biens des contribuables congolais. L'État a perdu beaucoup d'argent. Vous savez combien coûte une machine? Voilà pourquoi nous sommes là, pour vous sensibiliser, pour dire ne refaites plus une telle action incivique. Vous pensez vraiment que nous allons quitter Kinshasa en venant ici sans avoir des informations? Nous avons. Mais nous voulons vraiment entendre ce que vous dites aussi ici à la base. Pour prendre des décisions, c'est pour vous dire que nous sommes décidés d'arranger la situation en commençant par organiser des bonnes élections pour que lorsque la population a voté pour un candidat, il faut que ce soit ce candidat-là qui puisse être proclamé.
Et pour sa part, la population a exigé le déploiement à 48 heures de scrutin pour éviter les erreurs du passé. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Direction la province du Maniema. Après avoir vulgarisé la mesure de l'autorité provinciale sur l'interdiction de la capture et commercialisation des perroquets au Maniema, aux barrières d'entrée et de sortie à l'aéroport et à la gare, il a été question de réunir les services de sécurité et responsables de la RVA, de la gare, de la SNCC et du Beach afin de les instruire sur les mesures d'applicabilité de cette décision. La rencontre a eu lieu hier à Kindu. Désormais, ils ne doivent plus faire passer les cargaisons des perroquets. On écoute le commissaire en charge de l'intérieur qui a présidé cette rencontre en lieu et place du ministre de l'Environnement, Marcel Lembalemba, dans ses propos recueillis par Florence Kiza.
À travers nos services spécialisés, notamment l'ANR, DGM, la police, l'armée, ainsi que la police de la RVA, la police également de la SNCC, parce qu'on a ciblé les endroits où ces perroquets sont expédiés. Ainsi que nous avons instruit, à partir d'aujourd'hui, aucun perroquet gris ne quittera la province du Maniema. Aucun perroquet gris ne sera commercialisé ou trafiqué. Maintenant, si au niveau de l'aéroport, de la gare, port de Beach, on arriverait à trouver quelqu'un être détenteur de ces perroquets, là pour les trafiquer, les commercialiser, on doit procéder à son arrestation. C'est pourquoi j'ai demandé aux autorités de tous les services que je viens d'énumérer ici de pouvoir appliquer la loi à la matière, de pouvoir appliquer les instructions ou les mesures qui ont été faites par l'autorité provinciale. Et voilà la recommandation, parce que le problème s'est posé du fait que la loi est là, les mesures étaient là, mais les autorités là n'appliquaient pas. Et nous leur avons dit encore que tout document qui sera établi pour pouvoir couvrir les trafics ou les commerces de ces perroquets, ce document sera saisi et l'autorité émettrice de ces documents-là répondra également.
Actualité internationale. Le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire a gracié hier 51 personnalités condamnées pour des crimes de sang durant les crises qui ont secoué le pays. Cette grâce survient dans un contexte de cohésion nationale suite au sacre des éléphants à la 34e Coupe d'Afrique des Nations, Cannes-Côte d'Ivoire. Les États-Unis vont sanctionner plus de 500 entités liées à la machine de guerre russe. Washington doit annoncer ce vendredi des nouvelles sanctions contre Moscou visant plus de 500 entités liées à ses soutiens et à sa machine de guerre. Pour sa part, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a exhorté les États membres de l'Union européenne à faire davantage pour expédier des munitions à l'Ukraine qui souffre d'une pénurie d'armes.
L'invité.
L'épidémie de choléra est en régression dans certaines zones de santé du Haut-Katanga, indique le ministre provincial de la Santé. D'après Joseph Sambi Boulanda, la lutte contre cette épidémie est multisectorielle et chacun à son niveau doit s'impliquer pour l'éradiquer. Joseph Sambi Boulanda, invité de ce journal, en parle dans cet entretien avec Jean Gandou.
Monsieur le ministre Joseph Sambi Boulanda, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Comment se présente l'épidémie de choléra dans la province du Haut-Katanga?
Nous avons un cumul de 1377 cas avec 83 décès. Jusque à la semaine 5 épidémiologique, 18 zones de santé sur 27 étaient en épidémie. Mais à ce jour, il y a 5 zones de santé qui ont contrôlé l'épidémie et nous sommes en voie d'une rémission. Bien qu'on connaisse ces trois derniers jours quelques cas notifiés, notamment dans la zone de santé de Kikula à Likasi, la zone de santé de Sakania et ici à Lubumbashi. Comme vous savez, nous sommes dans un contexte d'épidémie régionale. Cela a fait même l'objet d'un sommet à Luanda le 2 février de cette année de tous les chefs d'État de la SADC pour prendre cette question à bras le corps et impliquer tous les gouvernements de la région.
En Zambie, le choléra a fait des ravages. Mais quelles sont les dispositions qui sont prises pour que tout ce que les Zambiens ont connu ne puisse pas se répercuter, notamment dans la ville frontalière de Kasumbalesa?
Et nous savons que nous avons 8 postes frontaliers formels et il y a le programme de l'hygiène aux frontières. Avant toute formalité d'entrée ou de sortie, vous devez vous faire checker par ce service. Et c'est ce que nous appliquons comme du temps de Covid. Ce service est là. Et même au niveau du couloir piétonnier, il y a des dispositions prises par rapport au lavage de mains et au contrôle sanitaire. Kasumbalesa a fait partie des zones les plus touchées, mais l'épicentre pour la province était d'abord le centre Moura et puis la zone de santé de la Kenya au niveau de Brondo. Le gouvernement provincial a pu renforcer le centre de traitement de choléra de la Kenya. Un autre centre de traitement pour Lubumbashi a été ouvert à Kisanga. L'ancien CETECO de Kasumbalesa a été transformé en centre de traitement de choléra à Moura et à Likasi. Ces jours, il y a 2564 ménages désinfectés et aussi des lieux publics. Donc, nous saluons l'implication aussi de nos partenaires traditionnels, l'UNICEF et l'OMS et Médecins sans frontières qui accompagnent les efforts du gouvernement provincial du Haut-Katanga.
Est-ce à dire qu'à Moura, pour l'instant, la situation est totalement stabilisée?
Selon les statistiques envoyées, il n'y avait que 3 cas qui sont stables, alors qu'il y a 3 semaines, il y avait près de 200 cas par jour. Donc, la situation est sous contrôle. Mais comme dans tout cas d'épidémie, puisqu'il y a toujours une évolution en dents de scie, nous sommes pendant la période pluvieuse, avec tout ce que nous connaissons, insalubrité et tout, et l'incivisme de certains de nos compatriotes qui mangent sur les rues et qui étalent les aliments par terre. Nous avons impliqué toutes les autorités politico-administratives sous l'impulsion du gouverneur pour que toutes les municipalités et les territoires puissent être assainis et pour que nous puissions contrôler totalement pour éviter une résurgence.
À Likasi, du 12 au 15, on a comptabilisé à peu près 158 cas. Dans cette fourchette de temps, il y avait à peu près 9 morts. À l'heure qu'il est, est-ce que la zone de santé de Kikula est pourvu en intrant, encore que ces malades provenaient de deux quartiers où les gens s'approvisionnent en eau qui n'est pas assainie.
Les intrants sont là et il y a toujours des réquisitions qui tombent. Donc les intrants sont prépositionnés ici à Lubumbashi, à Likasi aussi et Kasumbalesa, et les zones de santé sont instruites pour que, avant l'entame du quart du stock, que les réquisitions soient émises pour que l'approvisionnement soit continu. Donc nous traitons les cas confirmés qui arrivent et le traitement est gratuit, c'est pris en charge totalement par le gouvernement. Lorsqu'on a notifié un cas communautaire, nous rentrons avec nos équipes pour désinfecter ce ménage, et avec l'UNICEF et notre bureau d'hygiène, il y a les aquatables qui sont distribués pour la purification d'eau. Mais nous agissons aussi dans le comité multisectoriel de lutte contre le choléra. Il y a la régie des eaux qui fait partie de ce comité provincial, et donc la chloration d'eau et l'approvisionnement est un secteur connexe à la santé. Tous les services sont appelés à collaborer pour que l'épidémie soit vite jugulée totalement.
Joseph Sambi-Boulanda, je vous remercie.
Merci, monsieur le journaliste.
Le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga répondait aux questions de Jean Ganduka Bongo. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, Mimi Kindo à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.